RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, nous sommes avec le cheminot Bruno Poncé, l'enseignante Barbara Lefebvre, l'avocat Charles Consigny. Notre dernier sujet de discussion tout à l'heure à midi moins 20, ce sera l'annulation, le report des feux d'artifice du 14 juillet. Pourquoi ? Parce que c'est la canicule, c'est la sécheresse. Attention, risque d'incendie, disent bon nombre d'élus, de maires. Il y a même aussi des associations qui demandent à ce que des feux d'artifice soient reportés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
On va faire des feux d'artifice au mois de décembre.
Ah ben, il y en a un, c'est ce qui va se passer. Du côté de Auvers-le-Hamon, on est dans la Sarthe. Le feu d'artifice du 14 juillet aura lieu à la mi-décembre.
Il faut faire le 14 juillet à la mi-décembre. Voilà. Et le Tour de France, maintenant, il faudra le faire partir en février.
Donc, vous en parlez tout à l'heure avec nous à midi moins 20. On n'oublie pas le jeu Bélambra, les vacances à gagner à la mer, à la montagne ou à la campagne. Vous envoyez vacances par SMS au 732-16. Vacances par SMS au 732-16. C'est du compris all inclusive. C'est du premium. On s'occupe de tout. Vous y allez en famille. Vous pouvez donner les marmots à l'encadrement de Bélambra, il s'en occupe. Sinon, vous y allez entre potes. Et alors là, vous êtes peinard en tout premium. Donc, vous envoyez vacances par SMS au 732-16. Tirage au sort du gagnant dans un quart d'heure. En attendant, on accueille notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord, vice-président du RN. Bonjour, monsieur le député.
Bonjour. Une fois n'est pas coutume, vous allez nous parler de vous. Comment vous avez vécu hier après-midi, quand Marine Le Pen vous a appelé pour vous dire que finalement, elle sera candidate?
En réalité, avec beaucoup d'émotion. On avait eu une réunion de groupe le matin même à l'Assemblée nationale, qui était assez émouvante parce que nous étions un peu à la croisée des chemins, et surtout qui était émouvante parce que quand on fait la route avec Marine Le Pen, on le fait au nom d'idées auxquelles on croit, mais c'est vrai qu'en tous les cas, moi, mon engagement, il est aussi intimement lié à sa personnalité, à ce qu'elle est, au rapport qu'elle a avec les Français. Et imaginez qu'elle ne puisse pas faire vivre ce rapport avec les Français à l'occasion des présidentielles, me semblait à la fois terrible, terriblement injuste, et puis très dur à imaginer. Et c'est vrai que lorsqu'elle m'a appelé en fin d'après-midi pour me dire qu'elle irait à l'élection présidentielle, j'étais assez ému. J'étais content de la retrouver le soir.
Vous avez versé une larme.
Pas versé. Voilà, mais j'étais ému parce que
vous
je sais derrière.
Là, donc il y avait du soulagement aussi.
Je sais, non. Non, ce qu'on veut, c'est gagner. Mais surtout, on s'est construit dans l'adversité au Rassemblement National. On peut évidemment beaucoup nous combattre ou nous critiquer. Je crois que personne ne s'empêche de le faire. Nous sommes construits dans l'adversité face à un système qui souvent nous a fait passer probablement pour ce que nous ne sommes pas, quand on nous fait passer pour des nazis, pour des incapables, pour des blaireaux, etc. J'ai tout entendu. Hein. Quand on a enterré 100 fois Marine Le Pen, parce que j'en ai fait des plateaux télé, hein, où on m'a dit « Mais Marine Le Pen, c'est fini, c'est son nom, elle est nulle, elle est morte, Zemmour. » J'ai tout entendu pendant des années. Bon, Marine Le Pen, je disais sur une autre chaîne, c'est un peu Edmond Dantès, quoi, dans le Comte de Monte Cristo. Elle se relève toujours, elle revient toujours. Alors, je ne sais pas si tout ça perdurera, mais enfin, qu'elle souffle et qu'elle panache.
Elle se pose des questions. Déjà, elle sera une candidate qui a été condamnée, même si le pourvoi en cassation fait qu'elle est présumée innocente. Mais il y a quand même une condamnation en appel. Et puis, il y a cette histoire de cour de cassation. Elle se pourvoi en cassation. La cour de cassation avait fait savoir à l'époque qu'elle se prononcerait, si elle était saisie, avant la présidentielle. Donc, si le pourvoi est rejeté, Marine Le Pen pourrait finir sa campagne avec un bracelet. Or, elle nous a toujours dit qu'elle ne voulait pas de bracelet.
Alors, il y a plusieurs choses. Bon, d'abord, vous dites, elle est condamnée. Oui, elle est présumée innocente. D'abord, d'autres candidats, Édouard Philippe, il a une instruction pour détournement de fonds publics sur le dos en ce moment. Il est présumé innocent de la même façon. Donc, si vous voulez, le débat présidentiel.
Le procès, quand même.
Non, mais d'accord, mais il y a une instruction qui a été ouverte. Le débat, il doit faire sur les programmes, sur les idées, sur les propositions. Moi, je ne vais pas crier tous les matins sur les plateaux télé qu'Édouard Philippe a une instruction pour détournement de fonds publics. Il gère ça.
Ça fait déjà deux fois que vous
le dites. Non, mais parce qu'on parle, parce qu'on est. Mais j'en ai jamais parlé auparavant. J'ai jamais utiliser cet argument-là. Jamais. Parce qu'on est en train de parler du rapport des politiques avec la justice. Et je pense qu'il vaut mieux combattre Édouard Philippe sur ses propositions politiques, et moi je pense sur le danger qu'il représente, la poursuite du macronisme pour la France, que sur ça. La deuxième chose, la Cour de cassation. Bah, normalement, dans des temps, mais je parle sous le contrôle de Charles Consigny, qui connaît mieux ça que moi, la Cour de cassation rend ses décisions entre 1 et 2 ans après. Il peut y avoir une procédure accélérée qui avait été décidée, pas par nous, compte tenu de l'inéligibilité possible de Marine Le Pen, ce qui représentait quand même un élément dans la vie politique important. Donc il y avait une accélération. Aujourd'hui, il n'y a plus d'éligibilité. Marine Le Pen, elle est éligible.
Pas besoin d'accélérer.
Donc,
vous demandez
à
la justice d'être lente
mais,
comme
mais je vais vous dire, accélérer ou ralentir, ce n'est pas nous qui décidons à la fin. Ce n'est pas le Rassemblement National.
Vous
donc
faites un peu pression quand même sur la Cour de cassation. J'écoutais son avocat ce matin, Marine Le Pen. Bah si, c'est quand même étonnant de faire ainsi pression sur la justice pour demander de prendre son temps.
Non, je pense pas qu'on fasse pression sur le grand monde.
Le temps que Marine Le Pen soit à l'Élysée et protégée par son immunité
présidentielle. J'ai quand même plutôt le sentiment que la justice fait exactement ce qu'elle veut. En tous les cas, elle a démontré dans ce jugement d'appel qu'elle sortait l'aspect politique tout en tenant compte des conséquences que ça pouvait avoir dans la vie politique. Mais c'est pas un jugement politique au sens... Il n'est pas coloré politiquement.
Non, mais c'est un arrêt équilibré qui prend en compte la différence des temporalités entre le temps judiciaire et le temps politique. C'est vrai que les agendas se télescopent entre les deux. Et cet arrêt, de ce point de vue-là, il est assez équilibré parce qu'il permet quand même
C'est un arrêt politique. Dans lequel il est écrit qu'il prend en compte la liberté des électeurs. Donc, donc ça veut dire qu'il y a de la politique là-dedans.
Pas dans le sens je suis droite ou de gauche, mais dans le sens
puisque on tient compte du scrutin, c'est une décision qui a priori un arrière-plan politique. On est d'accord.
Juste le rappel que nous sommes en démocratie.
Il dit surtout que l'exécution provisoire est une atteinte au processus démocratique.
Et donc il dit l'inverse de ce que disaient les juges en première instance, qui disaient qu'il y avait un risque de trouble à l'ordre public si Marine Le Pen se présentait.
Il donne le feu vert à Marine Le Pen pour se présenter devant les électeurs. Ensuite, il y a un dossier qui suit son cours, comme des milliers de Français peuvent l'utiliser, comme des milliers de Français qui sont des procédures peuvent l'utiliser. On va en cassation parce que c'est le cours des choses et qu'on conteste les sanctions qui
sont
demandées.
Mais au-delà du problème juridique, on a l'impression quand même que vous et d'autres Rennes, vous êtes soulagés. Pourquoi ? Parce que Bardella, finalement, c'était pas une si bonne idée, alors que jusqu'à présent, quand on vous recevait, vous nous disiez que Marine Le Pen ou Jordan Bardella, c'était la même chose, c'était les mêmes idées, etc. Et là, tout d'un coup, on a l'impression quand même que ça soulage beaucoup de monde, ce soit Marine Le Pen la candidate.
Mais parce que c'est notre schéma initial, avec des candidats, chacun préparé pour assumer des fonctions différentes, comme nous l'avons indiqué depuis toujours, finalement, aux Français. Marine Le Pen se prépare pour être présidente de la République, Jordan pour être Premier ministre, ce qui n'est pas une mince affaire non plus. C'est pas rien d'être Premier ministre d'un pays, surtout vu l'état du pays, je peux vous dire. Donc, ils se préparent chacun différemment pour chacun occuper une fonction différente, si les Français nous font confiance et s'ils le décident. Et ça va être notre démonstration, ça va être notre capacité à convaincre les Français que ce duo, que notre slogan pour la France, la Renaissance, porte un espoir de redressement du pays. Ça, c'est notre boulot maintenant, de convaincre les Français. Mais nous voilà dans le schéma initial que nous avons préparé.
Bruno Poncet ?
Moi, j'aime beaucoup vous entendre aujourd'hui nous dire que la justice a rendu son verdict en pensant à tout, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça. C'était le gilet juge rouge, il voulait vous bâillonner. En fait, quand même, monsieur Chenu, il faut quand même qu'on aille au bout de l'histoire. Il y a quand même des gens de votre parti qui ont touché de l'argent indûment et pour des fonctions qui n'avaient rien à voir avec le Parlement européen. Donc vous avez fauté. Ces personnes-là n'ont même pas fait appel. Donc ça prouve bien qu'elles ont accepté la sanction et vous avez rendu l'argent. Donc ça veut dire qu'à un moment.
Non, c'est rien d'ailleurs.
Ouais, enfin, c'est ce qu'ils disent partout.
Non, mais là, vous mélangez un peu les choses.
Non, mais en fait, ils ont été condamnés. Donc, ça veut dire comment vous pouvez nous dire.
Mais vous savez, il y a des gens.
Vous avez dû prendre des leçons chez Béroub. Lui, il a fait condamner Sarnez. Comme ça, il est tranquille. C'est pas lui qui a pris.
Vous savez, moi, je vote pour le même type d'affaires. Monsieur Béroub n'a pas été poursuivi. En tout cas, n'a pas été condamné, pardon. En tout cas, son mouvement. Monsieur Mélenchon n'a même pas été poursuivi. Alors qu'on est exactement dans le même type d'affaires. Bon. Nous l'avons été et nous contestons aujourd'hui les décisions, et Marine Le Pen est présumée innocente, et c'est pas mon avis, c'est l'avis qui a été exprimé d'ailleurs ce matin même par, je crois, la procureure générale près de la cour d'appel, qui a dit aujourd'hui Marine Le Pen elle est présumée innocente. C'est pas mon avis, c'est la justice, ça. Alors, dans la première version, enfin le procès initial, la première instance, oui, il y avait une couleur politique. Moi, j'étais aux audiences quand on entendait l'expression d'une magistrate disant qu'on crée un trouble à l'ordre démocratique, voilà, qui n'existe dans aucun texte. Je parle encore une fois sous le contrôle de Consigny. Oui, il y avait une coloration. Non, parce que t'es probablement le plus capé juridiquement sur le plateau, peut-être. Oui. Enfin, je connais pas les parcours de chacun, mais moi, je suis pas
quasiment juriste.
Mais simplement, oui, il y avait une couleur politique.
Mais est-ce qu'on peut s'inquiéter alors pour les juges, parce que toi, vous avez dit que vous avez comparé Marine Le Pen à Edmond Dantès. Je vous rappelle qu'Edmond Dantès derrière se venge. Est-ce que les juges doivent s'inquiéter de l'avenir, parce qu'en fait, vous êtes en train de nous dire que si c'est Edmond Dantès, ça va pas rester là.
Mais c'est pas un mystère que dans le programme, il y a une refonte d'un certain nombre de dispositifs de justice, notamment la formation des magistrats, dont on pense qu'elle devrait être largement élargie, ouverte, pour éviter cet entre-soi que véhiculent parfois des syndicats comme le syndicat de la magistrature. Je veux dire, mon sentiment, c'est que le syndicat de la magistrature fait énormément de mal à la justice et aux professionnels de justice dans notre pays. Moi, j'ai beaucoup de respect. Vous savez, moi, je l'ai déjà dit peut-être, mais moi, je suis fils d'une greffière. J'allais dire, le petit peuple des palais de justice, je l'ai vu toute ma jeunesse à travers ce que faisaient les horaires, etc., qu'assumait ma mère. Et j'ai beaucoup de respect pour cette institution. Mais je pense qu'il y a des gens dans l'institution qui l'abîment beaucoup. Et le syndicat de la magistrature abîme énormément la justice de notre pays, qui n'a pas besoin de ça, il faut bien le dire.
Et c'est 10 à 20% des juges, je crois, le syndicat de la magistrature.
C'est énorme, hein.
30%.
30%, vous voyez, 1 sur 3.
Ouais.
Barbara Lefebvre.
Il y a un problème.
Une chose, parce que là, vous attaquez, enfin, vous critiquiez le syndicat de la magistrature.
Eux, non.
Mais je me suis dit, tiens, peut-être que le Rassemblement National, d'ici la Cour de cassation, ils vont faire profil bas. C'est-à-dire, ils vont épargner la justice, ils vont plus.
Mais le syndicat de la magistrature n'est pas la justice.
Non, d'accord, mais vous ne savez pas sur qui vous allez tomber non plus.
Donc, ça pose un certain nombre de problèmes, oui, que des magistrats prennent des positions politiques, médiatiques. On a vu ça. Et ensuite, doivent juger les gens contre qui ils ont pris des positions. Exactement. Ça pose des problèmes. Donc on est pour qu'effectivement,
ce soit un peu... Et mettent en cause l'état de droit. On en revient au même point.
Encore, mais en cause de l'état de droit, nous, on est en train de vous dire qu'on respecte particulièrement l'état de droit. On en respecte les décisions et on utilise les moyens qui existent.
Donc vous interdirez les syndicats de magistrats si vous arrivez au pouvoir?
Non, moi je ne suis pas pour interdire. Moi, d'abord, par principe,
il interdira la magistrature.
Je déteste les interdictions.
Les procureurs jugeront directement sans procès.
Non. Mais je pense que c'est dans le mode de recrutement et de formation des magistrats qu'il faut oxygéner tout ça.
Barbara.
Le pouvoir des juges, c'est un pouvoir...
On va pas faire un débat sur la justice.
Oui, non, mais c'est un pouvoir immense et très important, et c'est une institution qu'il faut préserver, justement, de toute coloration politique. Bon,
là, en ce moment même, Marine Le Pen et Jordan Bardella sont côte à côte pour ce premier déplacement de campagne de Marine
Justement,
Le Pen dans la Sarthe.
Alors, parce que maintenant, on va pas... je sais que ce matin, vous êtes obligés de faire tous les plateaux pour réagir à cette... Maintenant, la campagne est lancée. Elle se lance aujourd'hui, là, à la flèche, avec ce binôme, un petit peu d'ailleurs à l'américaine, président-vice-président, c'est un petit peu ça, mais c'est original et ça montre à la fois la préparation du Rassemblement National et son engagement dans la campagne. Est-ce que on peut considérer aujourd'hui que il n'y a pour l'instant que deux forces politiques qui sont vraiment entrées en campagne, c'est la LFI et le Rassemblement National? Le reste.
Il y a Edouard Philippe et son grand meeting ce week-end.
Non, excuse-moi.
Aujourd'hui.
Le reste, c'est de la tambouille, parce que Monsieur Philippe, pour l'instant, il pédale dans la semoule, il est tout seul, et au rythme où ça va aller, ça va faire 10%.
Il est pas tout seul, il y a beaucoup de gens qui le rallient.
Oui, il a même pas réussi à remplir la salle, mais enfin, bon, bref, peu importe. Bon. Aujourd'hui, Monsieur Bardella, est-ce qu'il commence déjà à préparer aussi son rôle de Premier ministre, c'est-à-dire à mettre en route aussi la campagne législative, parce que derrière, il va falloir enclencher avec les législatives. Donc, est-ce que justement le choix de ce binôme, c'est-à-dire Marine Le Pen, présidente de la République, et Jordan Bardella, chef du gouvernement, donc celui qui va tracter ensuite toute la locomotive pour gagner les législatives, parce que ça va être indispensable pour gouverner, est-ce que c'est aussi comme ça que vous envisagez la campagne?
C'est exactement ça. En fait, nous sommes en toute transparence devant les Français en leur disant comment on va travailler, qui va faire quoi, et je crois que la démonstration à la flèche, mais c'est le but, c'est que la flèche touche sa cible en ce qui concerne l'élection présidentielle, eh bien montre que nous sommes prêts. Notre programme sera présenté dans son entièreté plus tard, parce qu'il y a encore des tas de chapitres sur lesquels nous avons des choses à dire. Et je vous rappelle que autant on connaît bien nos grands piliers sur l'immigration, le pouvoir d'achat, etc., autant il y a aussi des thématiques qui ont été émergentes ces dernières années. La santé, l'environnement, le logement, qui ont pris beaucoup plus de place dans le débat public. On a des propositions, il va falloir aussi qu'on les mette dans la lumière, qui sont différentes de ce qu'on a vécu jusqu'à présent, de ce qui a été géré tant par Édouard Philippe que par Gabriel Attal. Donc nous, on est prêts. Et on va éprouver ce programme devant les Français. On va leur proposer et puis on va tâcher de les convaincre.
J'ai entendu parler de forums. Vous allez organiser des forums de discussion autour des questions.
Conventions.
Non, plutôt des forums de débat citoyen.
Mais on s'interdit rien. L'idée, c'est dans tous les cas de se dire que on veut rassembler pour redresser. Le pays est dans un état quand même très abîmé. Après 10 ans de macronisme, ils l'ont ruiné, ils l'ont uberisé, ils l'ont ouvert à tous les vents. Enfin, le pays est dans un état épouvantable, alors qu'on a toutes les capacités, toutes les forces, toute l'histoire, tout le génie français pour aller plus loin.
Oui, mais vos adversaires
donc on va essayer de mettre ça en ligne.
Regardez le tandem, une condamnée et un débutant, un inexpérimenté.
Mais je vais vous dire...
Voilà les attaques
oui. de Eh bien, de je vais vous dire, s'ils jouent à ça, ils vont passer à côté de leur propre campagne. Nous, on va parler du fond. On va faire des propositions. Si nos adversaires passent leur temps à jouer à ça, eh bien, je peux vous dire qu'en fait, et ils seront à côté de ce qu'attendent les Français, que nous allons prendre très au sérieux en leur proposant un autre chemin, d'autres propositions politiques. Alors, Monsieur Attal peut aujourd'hui parler de Trumpisation, alors qu'on utilise simplement la réalité des moyens qui sont mis à notre disposition. Fond, il passe à côté des Français.
Eh ben justement, sur le fond, on va y venir dans un instant avec Charles Consigny, Bruno Poncet, avec Barbara Lefebvre, c'est Sébastien Chenu. Qui est vice-président du Rassemblement National, qui est notre invité. On va d'abord passer par la Seine-et-Marne, retrouver Christelle. Bonjour Christelle.
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est vous qui avez été tiré au sort, c'est vous qui gagnez les vacances Bellambra, Christelle.
C'est incroyable, incroyable, merci.
Ah ben je vous en prie, c'est Bellambra qu'il faudra remercier. Votre fidélité au GG a été récompensée, vous gagnez un séjour tout compris premium, c'est-à-dire que vous allez choisir parmi 45 destinations. Je ne sais pas si vous allez y aller entre amis ou avec les enfants. Comment vous allez faire ?
Non, avec mon mari, c'est largement suffisant. C'est très bien, je vous remercie beaucoup. Vraiment, super émission, je vous écoute tous les jours. Merci.
Eh bien, vous choisirez mer, montagne, campagne. Vous allez voir, les destinations sont super. Je vous laisse choisir. Passez de bonnes vacances,
merci,
ma chère Christelle. À bientôt.
Bel été.
Bel été, merci. Bonnes vacances. À bientôt dans les GG. Dans un instant, Sébastien Chenu, on continue, bien sûr.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Vous êtes avec les GG, avec les Grandes Gueules, avec Bruno Poncet, avec Barbara Lefebvre, avec Charles Consigny, surtout avec notre invité pour le Face au GG, c'est Sébastien Chenu, député Rassemblement National, vice-président de l'Assemblée Nationale. Marine Le Pen l'a encore dit aujourd'hui, il y a quelques minutes, lors de son déplacement dans la Sarthe. Je suis éligible. Elle est avec Jordan Bardella, celui qui doit aller à Matignon si jamais Marine Le Pen gagne l'élection présidentielle. La campagne a commencé. On en parle avec Sébastien Chenu et Charles Consigny. Charles.
Alors, voilà, moi ce qui m'intéresse c'est quand même d'aller sur le fond parce que ça n'est pas la même ligne selon que le candidat du RN est Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Je pense qu'avec Bardella le RN serait allé plus à droite avec un programme d'inspiration sarkozienne, disons, et je vois avec Marine Le Pen quelque chose qui tient plus de d'une forme de chiraco-socialisme et ça m'intéresse beaucoup quand j'entends les gens du RN, oui, nous sommes le changement dont la France a besoin. Alors là, c'est même maintenant carrément la Renaissance. Bon.
Oui, la Renaissance, c'est le slogan choisi par Marine Le Pen.
Bon, étrange.
Petit clin d'œil quand même au parti macroniste dirigé par Gabriel Attal.
Mais tout ça, quel est le fond des choses ? Le fond des choses, c'est que Marine Le Pen ne propose aucun changement par rapport à la situation de la France. Elle ne veut pas réduire le nombre de fonctionnaires. Elle ne veut pas vraiment baisser les dépenses publiques, puisqu'en fait, elle est très étatiste, elle est pour l'État-providence, elle est pour la redistribution. Sans doute, ça fait d'ailleurs une part de son succès dans certaines couches de la population, mais elle assume tout à fait tout ça. Elle se revendique ni droite ni gauche. On comprend qu'en fait, elle aussi entre centre-droit, centre-gauche. Donc en fait, pour moi, c'est une espèce de continuité du système tel qu'il existe en France depuis maintenant environ 40 ans. Voilà. Donc je vois pas où est le changement.
Marine Le Pen, c'est la candidate du système, quoi.
D'un certain système français. Pas du système establishment. Il faut lui reconnaître ça. C'est pas la candidate du CAC 40. Faut pas mentir aux gens. En revanche, je pense que c'est la candidate d'un système à la française qui ne marche pas. Qui ne marche pas, qui nous appauvrit, qui est très injuste pour la France qui travaille.
Sébastien Chenu.
Bon, j'entends toujours cette critique de Charles Consigny, à laquelle je ne souscris pas, parce que je pense que, d'abord, beaucoup disent exactement l'inverse. Disent, mais c'est une énorme rupture, si Marine Le Pen arrive, c'est un changement radical, etc. Donc, il faudrait savoir à un moment où c'est une rupture ou c'est une continuité. Moi, je pense que Marine Le Pen, c'est d'abord la candidate qui a une conscience sociale. Alors, c'est toujours un peu ce qui, j'ai l'impression, vous gêne, Charles, parce que on a le sentiment que il faut être un libéral qui dise mort aux pauvres, non, matin, midi et soir.
Vous appelez conscience sociale.
Bah oui, le fait que, effectivement,
Non, pas du tout.
Et en parallèle, et en miroir de ça, justement, avec la nécessité de s'emparer du problème de la dette et de la dépense publique. Contrairement à d'autres candidats, je vous rappelle que Jean-Luc Mélenchon lui dit que la dette, c'est pas un sujet. Et nous, la dépense publique, on a effectivement un grand plan d'économie dans l'État. D'abord déjà dans l'appareil d'État. C'est d'ailleurs sur votre antenne que Marc Toiti dit qu'il y a 150 milliards d'euros par an à aller chercher dans la tuyauterie. Dans les agences d'État, etc. 150 milliards d'économies à aller chercher. Je vais vous dire, même si on en trouve 50, même si on fait 50 milliards d'économies rien que dans ce qu'on appelle effectivement la tuyauterie, eh ben on va pouvoir en faire des politiques différentes. Et des politiques différentes, c'est quoi? C'est évidemment l'immigration, rupture totale avec les logiques qui nous habitent, puisque nous, je vous le rappelle, on va faire un référendum sur l'immigration, sur le régalien. C'est manifeste.
Avec quelle question?
Ben avec non pas une question, avec d'abord un texte, un projet de loi. Quand vous votez sur un référendum, vous votez pas sur oui ou non à une question. Vous avez une proposition, nous ce sera le projet de loi qui a déjà été présenté d'ailleurs aux Français lors de la dernière élection présidentielle sur combien de temps un étranger peut résider sur le territoire, sous quelles conditions, quelles ressources peut-il obtenir en termes d'allocations sociales, etc. Vous avez, comme pour Maastricht en fait, une proposition, un texte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce texte ou pas? Donc là, on a une rupture très forte sur les politiques du régalien. Une rupture forte sur la nécessité de maîtriser la dette, parce que moi ce que je vois c'est que la dette continue à filer et que le Premier ministre a fait voter dans son dernier budget bien difficilement il faut dire, mais encore des milliards d'euros d'impôts supplémentaires sans aucune mesure d'économie. Or nous proposons des mesures d'économie, et puis après il y a des logiques différentes. Regardez sur notre pauvre pays, on a l'impression que dès qu'il y a un fait de société extrêmement touchant comme celui par exemple du meurtre de cette petite Liana ou problématiques comme la canicule, on ouvre un tiroir, tout est écroulé. On s'aperçoit que les hôpitaux sont pas climatisés, les EHPAD sont pas climatisés, les écoles sont pas climatisées, tout est effondré. Pour la gamine, on s'aperçoit qu'il y a des kilomètres de dossiers entassés dans les greffes qui ne sont pas traités par la magistrature, tout est écroulé. Ben nous, c'est ça aussi qu'on a envie de faire, c'est redresser le pays. Mais pour ça, on a besoin, oui, de fonctionnaires de justice, des fonctionnaires dans les hôpitaux. On en a peut-être moins besoin dans un certain
travail.
On a peut-être moins. On veut mettre plus de monde au boulot, c'est-à-dire que je pense qu'il faut faire rentrer plus vite les jeunes au boulot et maintenir les seniors plus longtemps aussi au boulot.
Par exemple, déjà, faisons ça. 35 heures, vous changez rien.
Charles Consigny, déjà, faisons ça et vous allez voir que le pays va changer de direction.
Il faut une révolution. Les 35 heures, par exemple, vous ne les supprimez pas.
Aujourd'hui, nous, on a d'autres types de solutions. Et vous avez des marottes.
La retraite, c'est toujours pas quel est votre programme.
C'est toujours
retraite.
Le même programme qui est, je le répète, sur toutes les antennes depuis toujours. Alors c'est drôle parce que quand vous disiez quand il y avait une nuance avec Jordan Bardella, vous avez très bien compris quelle était notre proposition de retraite. Puis maintenant, plus personne ne la comprend. C'est toujours pareil. Pourtant, ça n'a pas bougé. C'est vous, si vous avez commencé à bosser avant 20 ans et que vous avez 40 annuités, vous pouvez partir en retraite à partir de 60 ans. Et puis après, de façon progressive, 42 annuités, vous pouvez partir à 62 ans. Ça, c'est le projet.
Vous maintenez le déficit du système de retraite avec ce...
C'est un projet de société différent qui nécessite effectivement un financement. Ça veut dire des choix financiers. Donc ça veut dire que l'argent qu'on va mettre ici, mais comme on en mettra aussi pour le redressement démographique du pays que personne n'a vu venir. Hein. Je vous rappelle que ça fait juste des années, c'est un peu comme le GIEC. Ils sont tous d'accord pour dire que
les retraites,
mais personne n'a rien fait. Donc c'est un choix de société.
Oui, mais c'est déjà un choix de société puisque les retraites françaises, ça pèse beaucoup dans les dépenses sociales. Donc vous voulez encore faire plus peser le poids des retraites dans nos dépenses sociales. C'est un choix de société au détriment des jeunes, par exemple.
Non, pas plus peser, puisqu'on veut que ça consacre toujours, 14 14% du PIB. Toujours le même point du PIB. Système, mais nous allons faire rentrer, c'est pour ça que je vous dis, il faut rentrer plus de jeunes sur le marché du travail, garder plus longtemps les seniors. Alors il faut des incitations.
Vous allez encourager un peu plus et favoriser la démocratisation de la capitalisation, justement.
Mais la capitalisation, lorsqu'elle n'est pas obligatoire, pourquoi pas? Je veux dire, c'est pas un tabou.
Elle
ne peut pas être obligatoire.
Elle peut ne pas être obligatoire, mais elle peut être largement appuyée, favorisée par l'exécutif et par le gouvernement.
Pas de tabou pour arriver à cet objectif qui est le nôtre, c'est-à-dire de pouvoir partir à la retraite à 60 ans quand on a commencé à bosser avant 20 ans et à 62 ans quand on a ses 42 années.
Je regardais les images des chaînes info de ce premier déplacement de campagne de Marine Le Pen avec à ses côtés Jordan Bardella. Je trouve que Jordan Bardella fait la gueule.
Et surtout, alors, on ne le voit pas sur les images.
Peut-être que, mais je trouve qu'il fait la gueule. Est-ce que quand même, c'est pas évident parce qu'il y a encore 24 heures, il était pour tout le monde, dans la tête de tout le monde, le candidat à l'élection présidentielle et le favori, si l'on croit tous les sondages. Et là, en quelques heures, il est redevenu le dauphin, le second, celui qui sera à côté de Marine Le Pen, mais qui sera pas au devant. C'est quand même compliqué à gérer. Ça.
Ceux qui font la gueule, c'est plutôt nos adversaires. Moi, j'étais hier soir dans l'hémicycle quand on a appris la décision officielle de Marine Le Pen d'être candidate. Je peux vous dire que ce soit à gauche, chez Édouard Philippe ou chez Gabriel Attal, ils avaient compris que ça allait être une sacrée partie à jouer parce qu'ils connaissent l'endurance, la solidité de Marine Le Pen. Jordan Bardella fait pas la gueule, il se prépare à devenir Premier ministre. Ça donne pas forcément le sourire.
Il y a pire dans la vie.
Je sais pas s'il y a pire dans la vie. Parce que vu l'état du pays, si, ça donne pas envie de se marrer, hein. Ça donne pas beaucoup envie de rigoler. Et je pense que Jordan Bardella, qui est un garçon sérieux.
Je pense que quelqu'un qui manipule, qui manie un marteau piqueur toute la journée, c'est un peu pire qu'être Premier ministre. Surtout quand il fait 45 degrés, on est d'accord.
C'est pas les mêmes choses.
Non, mais il y en a un où c'est très pénible, physiquement, très dur, et ça mérite de pouvoir partir en retraite à 60 ans, justement, quand on manipule un marteau piqueur sous des conditions, bien sûr. Mais de l'autre côté, quand on est Premier ministre de la France, ce n'est pas rien vu l'état du pays.
Sébastien Chenu, là, il y a un élu Rassemblement National de Saint-Avold qui a démissionné parce qu'il a été filmé en train de chanter Maréchal, nous voilà.
Il y a deux ans.
Il y a aussi là des jeunes, peut-être proches du Rassemblement National, qu'on a vu en train de chanter Marine au pouvoir, les bougnoules à l'abattoir. Est-ce que finalement votre danger pendant la campagne, c'est pas votre base?
Non, parce que je pense que
c'est pas elle qui risque de décrédibiliser votre campagne.
Nous, on sanctionne ce genre de propos tout de suite. J'allais dire, dans d'autres partis politiques, on sanctionne pas certains propos qui sont bien plus problématiques. Et effectivement, on les encourage. Nous, on sanctionne tout ça tout de suite, notamment ce garçon. Mais ça dit quelque chose de la campagne présidentielle. Aller chercher les propos d'un gamin de 20 ans qu'il a tenu il y a deux ans. Il avait 18 ans. Propos inqualifiables qu'il faut sanctionner. Mais aller les chercher pour en faire les gros titres de la presse, ça vous dit ce que ça va être que la campagne présidentielle.
Oui, d'accord, mais ça veut dire que peut-être certains n'ont pas un bon fond aussi au Rassemblement National et peuvent se lâcher pendant la campagne. Ça peut vous porter préjudice. Donc
vous croyez qu'il y a un bon fond chez tout le monde à RMC?
On n'aspire pas à diriger le pays, ce qui est quand même plus gênant.
Je ne pense pas qu'un conseil municipal de Saint-Avold aspire à diriger le pays. Voilà. Donc là, nous, on sanctionne ça.
Qui craignez-vous le plus dans un second tour, Jean-Luc Mélenchon ou Édouard Philippe?
C'est deux dangers différents. Je pense qu'Édouard Philippe est une catastrophe pour le pays parce que ce serait la continuité, ce serait la désespérance des Français, le désespoir absolu des Français qui diront on n'en sortira jamais, les mêmes logiques qui amèneront les mêmes résultats. Et je pense que Édouard Philippe c'est le fiasco avec l'air sérieux, quoi, Édouard Philippe. Et donc en cela, il est un danger pour le pays. Quant à Jean-Luc Mélenchon, c'est la bascule du pays. C'est la bascule du pays dans une sorte de guerre civile qui aujourd'hui ne dit pas son nom. C'est l'isolement du pays à l'international. Mais encore une fois, moi je veux pas.
On dit pareil de vous en fait. On dit que si c'est vous qui passez, c'est l'isolement du pays. C'est une guerre civile.
C'est la stabilité.
On basculerait avec Orban et compagnie que les gens veulent pas.
Bon, il n'y est plus là.
Orban, il n'y est plus là. Orban a changé de disque.
Simplement. Oui, mais sauf qu'elle va quand même voir votre ami, votre candidat.
Mais je vais vous dire, en réalité, je suis même pas sûr qu'il faille aller sur tout ça. C'est-à-dire que il faut pas jouer sur les peurs des Français. Il faut simplement prendre les programmes des uns et des autres, les confronter et demander aux Français quel chemin ils veulent. Moi, je crois beaucoup à ça, à aller parler à l'intelligence des Français. Est-ce que vous voulez
ce nouveau discours de notable maintenant?
Je suis pas très notable.
Ah ouais, là, c'est vraiment dormez tranquille, brave gentil.
Notabilisation.
Ah ouais, vous êtes en tout cas plus.
C'est vrai, ça fait le cinquième média que je fais ce matin. Je suis peut-être pas assez rentre dedans, mais moi je crois beaucoup dans...
En fait, vous voulez quand même rassurer les électeurs, notamment du deuxième tour, s'il y a un deuxième tour pour Marine Le Pen, voilà, en disant Marine Le Pen, ce n'est plus le diable c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais
elle est le diable pour ceux qui ont eu envie d'y croire. Moi, j'ai jamais pensé que Marine Le Pen était le diable en quoi que ce soit. Je dis simplement aux gens, regardez les propositions politiques. Vous regardez celle de Mélenchon, vous regardez celle d'Édouard Philippe ou des candidats du Bloc central, vous regardez celle de Marine Le Pen. Et puis vous vous faites votre idée. Voilà, c'est tout ce que je dis. Moi, je crois en ce qu'on propose. Je crois qu'on le fait avec beaucoup de sincérité. Confrontons-nous, venons nous chercher sur notre programme. Je pense qu'on viendra plutôt que sur des arguties juridiques. Et puis, demandons aux Français quel type d'avenir ils veulent pour leur pays. La France, elle n'est pas morte quand même.
Merci Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national, passé par les JG. La campagne est donc lancée, la campagne électorale pour la présidentielle de 2027. Premier déplacement, la Marine Le Pen, Jordan Bardella, Édouard Philippe de son côté. C'est parti. Dans un instant, feu d'artifice du 14 juillet avec la sécheresse et la canicule. Est-ce qu'il faut les annuler ? 32-16 pour en parler.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Sur les GG qui vous accompagnent, parce que j'avais pensé à la campagne électorale, ça y est, Marine Le Pen, elle est déjà lancée dans le bain de foule avec Jordan Bardella. Ce sont les GG qui vous accompagnent avec Barbara Lefebvre, Bruno Poncet et Charles Consigny, notamment pour parler du 14 juillet. C'est vrai que le 14 juillet, la semaine prochaine, va tomber dans une période où il va faire encore très chaud, très sec, et là on les accumule, et donc bon nombre de municipalités disent que c'est peut-être pas le moment de tirer les feux d'artifice du 14 juillet.
Prenons l'exemple du département de l'Hérault, où il y a eu des incendies déjà, et qui a un risque très important parce que la végétation est totalement asséchée, eh bien la préfecture de l'Hérault a décidé d'interdire la plupart des feux d'artifice du 10 au 16 juillet dans ce département, parce qu'il y a un risque très élevé, sauf ceux tirés depuis la mer. Donc ce qui se passe dans ce département va sans doute se répercuter ailleurs. D'ailleurs, c'est quasiment toute la France qui est en risque incendie. Est-ce qu'il faut l'accepter ? Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir aussi aux années suivantes, puisqu'on nous explique que ces canicules vont se répéter, et décaler les feux d'artifice, trouver d'autres façons de faire ? Il y a une commune qui a décidé de faire son feu d'artifice du 14 juillet en décembre. Bon, c'est assez original, mais est-ce qu'il n'est pas temps de s'adapter ?
Moi, j'ai une question naïve. Hein, genre, là, vraiment, je n'ai même pas la réponse. Y a-t-il eu, dans les années récentes, des incendies gravissime, provoqué par des feux d'artifice du 14 juillet, c'est-à-dire organisé par des municipalités, etc. Voilà. Moi, je pose juste une question. Est-ce qu'il y a eu ces cas ? Je crois que les feux déclenchés sont, pour la plupart, souvent d'origine criminelle.
Des pyromanes.
Des pyromanes, voilà.
Ou des mégots.
Ou des gens qui jettent leurs mégots. Et j'en ai vu encore. Ouais. Il y a quelques jours, évidemment, je me suis arrêtée, j'ai gueulé. Bon, l'autre m'a insulté, m'a traité de tous les noms. Et ta mère la pute et compagnie. Non, mais c'est extraordinaire maintenant. C'est extraordinaire. Oui. Tu ne peux plus rien dire.
Non, c'est vrai.
Et j'ai encore pris un risque parce que maintenant tu te demandes en plus si tu dis et le mégot, etc., ouais. Qui c'est qui va le ramasser ? Tu te demandes si le gars va pas te sortir un couteau. Donc je me suis fait copieusement insulter. Donc il me semble que ce monsieur qui me jette le mégot ou les pyromanes dont on sait hélas qu'ils existent, me semble être plus dangereux que le feu
d'artifice.
D'ailleurs,
on a arrêté dans l'Hérault un pyromane, là, la semaine dernière, responsable de 9 départs de feu.
Voilà. Je dis pas, peut-être qu'il y a eu des cas, mais comme je n'en ai pas entendu parler, je me demande pourquoi on prive les gens d'un feu d'artifice.
Donc pourquoi on emmerde les gens en privant d'un feu d'artifice ?
Parce qu'il faut que les préfets se rendent utiles et aient l'impression d'agir pour la préservation de la sécurité.
C'est principe de précaution, parce que si jamais il y a un feu d'artifice qui provoque un incendie, le préfet se fera engueuler par le ministre.
Est-ce que c'est déjà arrivé ? La question que je pose. Peut-être que c'est déjà arrivé et je serai démenti, ça m'intéresse.
Les sociétés de pyrotechnie, elles savent pertinemment ce qu'elles font. Quand tu installes ta batterie de feu d'artifice, tu es entouré de tous les systèmes anti-incendie. Oui. Je pense qu'annuler le feu d'artifice, c'est plus dans l'esprit de dire, voyez, nous on l'annule, donc ceux qui, dans leur jardin ou dans leur propriété ou quoi que ce soit, vont acheter, tu sais, des petits feux d'artifice artisanaux comme ça. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde pareil.
Ouais, mais...
enfin, je sais pas. C'est
non,
c'est
mais... ça, non. Moi, je pense
tu crois
que...
pas, Bruno.
Non, parce que tu vois, c'est en début de semaine, là, lundi, l'étape du Tour de France, elle a été à huis clos sur la fin de parcours. Pas parce que tu tires des feux d'artifice ou parce que le vélo va foutre le feu. Parce qu'en fait, l'agglomération des spectateurs est un danger, en fait. Et là, t'as un gamin de 22 ans qui est mort ce matin. À un moment donné, le principe de précaution, c'est pas uniquement, c'est pas uniquement de sauver un brin d'herbe. C'est surtout de sauver des vies humaines. Des mecs vont après se battre contre des feux qui ravagent des hectares. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, le problème, c'est comme les gens ne sont pas assez disciplinés. Comme les gens, dès qu'ils sont en foule, ils font n'importe quoi. Un feu d'artifice, en plus, qui est tiré de nuit, forcément, les gens peuvent faire encore plus n'importe quoi parce qu'ils sont invisibles. Je trouve vraiment que, malheureusement, on n'a pas le choix. Il faut qu'on évite quand même tout ce qui peut être fait pour éviter qu'un gamin de 22 ans ou un gamin de 18 ans, parce que la plupart des pompiers volontaires sont des jeunes, meurent parce qu'ils combattent le feu. Donc à un moment donné, oui, évidemment, c'est triste. Mais est-ce qu'il n'est pas plus important la vie de gamin que de tirer un feu d'artifice pour faire plaisir à tout le monde? D'ailleurs, s'ils veulent des feux d'artifice, donc à venir moi, j'en ai un tous les soirs en ce moment, quand il y a une équipe qui gagne. Et peu importe la couleur, je peux te garantir, j'entends des bruits tout le temps. Et d'ailleurs, si je ne regarde pas le match, je sais qui a gagné. Hein.
Charles.
Moi, je vous avoue que je ne comprends pas du tout l'attrait pour les feux d'artifice.
C'est vrai.
C'est un spectacle qui ne...
Ça, moi.
Ah bon?
Ah, moi, je suis un gamin avec ça, moi.
Ah, je trouve que c'est un spectacle d'un ennui total.
Moi, je suis comme Charles, je suis pas trop...
Et donc, si pour préserver des hectares de forêt, il faut laisser tomber les feux d'artifice, en tout cas...
Si t'es président, t'annules tous les feux d'artifice.
Oui. Non, mais surtout, on en fait des magnifiques aujourd'hui.
Dans le sud du pays, oui, pourquoi pas.
Chez Disney, alors.
On s'en fout.
Chez Disney, c'est cloisonné, t'y vas, tu t'amuses. Hein.
Mais non, parce que moi, j'aime bien l'esprit du 14 juillet, où c'est gratuit en général, c'est offert par la municipalité, t'as les familles qui viennent... Ça se passe dans un champ, il y a un truc. Moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien les fêtes un peu populaires.
Olivier, depuis
un
que t'as
peu...
quitté la région parisienne, c'est
non, mais
le bobo parisien.
Adoré ça.
Le bobo parisien, il était parti.
Mais non, j'ai toujours adoré ça. Moi, c'est en vacances.
Tu manges des merguez.
Ouais, j'adore ça.
Tu bois une petite croix avec tes potes.
Exactement.
Tu sais, il est plus simple qu'il en a l'air, Olivier.
Je suis plus simple que toi, Bruno Poncet.
Alors, que c'est Alain, en fait, Alain a quand même des goûts plus de luxe, lui.
Il est pas comme toi, demi-bobo, robe.
Demi,
machin.
Demi, parce que moi, j'ai pas les moyens d'être entièrement bobo.
Demi-branchouillasse.
Et c'est un rare. Non, mais c'est un des rares spectacles gratuits, le feu d'artifice. Aujourd'hui, il faut payer pour tout.
Bah, tu payes quand même, tu es.
Oui,
tu
bien sûr, indirectement. Hein. Mais en général, c'est offert. Donc, c'est pour ça que les gens viennent. Il y a un côté, voilà, on vient en famille et autres. Donc, si on supprime ça, moi, je veux bien, mais on ne peut pas à la fois se dire toujours, on ne vit plus ensemble, on n'arrive plus à faire des choses
ensemble.
Mais
c'est pas d'analyser.
On supprime, on se confine pour tout. Il y a des. Ah, il faut confiner. Bah, en fait, c'est ça. C'est maintenant, c'est l'heure du confinement. Il y a un problème. Mmh. Je suis un peu comme Barbara.
Voilà.
Il faut arrêter.
C'était justement ce que j'allais dire. J'allais dire, effectivement, je souscris, Bruno, à les gens se comportent, surtout dire ce qu'ils sont en foule de façon irresponsable, etc. Bon, bah écoutez, je crois qu'on l'a déjà testé. La seule solution pour éviter que les gens se regroupent et fassent des bêtises, c'est de les confiner. Donc,
confine à vie.
Écoutez, on va demander à Édouard Philippe, vu qu'il est bientôt là de retour. Il est spécialiste du confinement. Bah, moi, je pense que dès qu'il y a un petit problème, allez hop, on confine. Alors, canicule, on confine. Feu d'artifice.
Mais c'est les aveux de faiblesse. Match de foot,
le
on
froid,
confine.
On confine. Match de foot, on confine.
Pas de fan zone. Donc en fait, c'est l'aveu de faiblesse aussi.
Chez nous, ça va être...
On ne sait pas régler les problèmes et arrêter les emmerdeurs, donc on embête tout le monde.
Confinons, allez, hop.
On a Erwan qui veut réagir avec les GG, il nous appelle du côté du Rhône. Bonjour Erwan.
Oui, bonjour à tous.
Comment ça va Erwan? Est-ce que vous attendez le feu d'artifice avec impatience? Est-ce qu'il faut les annuler? Dites-moi.
Alors moi, je vous avoue que je suis partagé sur le sujet, parce que je suis conscient qu'on a besoin de se rassembler, etc., mais je fais partie des gens qui sont indirectement concernés par la chose. Moi, j'ai ma cousine qui actuellement est évacuée de son village dans le Diois. Il y a un feu qui a ravagé 2000 hectares de forêt, dont l'exploitation de son compagnon aussi, donc qui a des brebis, etc. Donc le risque est double, puisqu'il y a plus de boulot et plus de maison.
Ah oui, mince.
Actuellement, elle m'a envoyé des photos. Cette nuit, le feu était à 200 mètres de la maison. Hein.
Ouais.
D'ailleurs, un grand hommage aux pompiers qui... Désolé, ça me touche un peu.
Je comprends, bien sûr. Bah, l'important, c'est qu'elle soit saine et sauve, bien sûr.
Les brebis
et,
je sais pas. Voilà, bah, les brebis, je ne devrais pas le dire à l'antenne, mais monsieur a bravé le barrage des pompiers et allé sauver,
il a raison.
Sauver ses brebis.
J'ai vu énormément de vidéos comme ça où des gens essaient de braver on peut comprendre les pompiers, moi je les comprends, mais en même temps, quand c'est vos animaux et que c'est même pour vous, pour le cas de votre sœur, voilà. Son gagne-pain, il les a sauvés?
Alors oui, en fait, elles étaient plus là où il les avait laissées parce que le feu s'est approché trop près, mais heureusement il les a retrouvées et puis remis en sécurité.
Ah.
Mais voilà, moi je pense que c'est
un peu de responsabilité en ce moment, c'est ce que vous dites.
Ouais, c'est pas de responsabilité, mais juste prendre du recul et se dire que oui, effectivement, je pense pas qu'un feu d'artifice au milieu de la ville de Lyon soit un grand risque. C'est très urbanisé, bétonné. Mais dans toute cette région où actuellement c'est extrêmement sec, faut juste se mettre à la place des gens et se dire que s'il y a la moindre chance que ça arrive, je pense qu'on peut quand même fêter le 14 juillet sans un feu d'artifice.
Minimisons les risques.
Ouais, voilà,
je suis 100% pour que les gens continuent de se rassembler. Toutes ces histoires de confinement, c'est des conneries, il faut y arrêter. Mais le risque incendiaire, voilà, faut prendre conscience qu'en France, c'est Erwan, de plus sec de partout. Et...
Bien justement, Erwan, restez avec nous parce qu'on a Jean-Philippe qui est conseiller municipal dans l'Hérault. Bonjour Jean-Philippe.
Où c'est interdit donc.
Bonjour les GG.
Et qu'est-ce qui s'est passé avec votre conseil municipal dans l'Hérault du côté d'Abeillan, alors dites-moi.
Eh bien, alors déjà, notre maire et ainsi que mon collègue Jean-Philippe, mon homonyme du conseil municipal, vous avez pu les voir sur France 2, France 3, puisqu'ils ont été interviewés. Et il se trouve que lundi, on a fait un conseil municipal et on a décidé à l'unanimité de ne pas faire le feu d'artifice cette année.
Ah oui.
Puisqu'on avait déjà le problème de a priori, un pyromane qui s'est amusé à allumer quelques feux sur notre commune et celle de Saint-Vian.
Oui, le feu d'artifice, ça déclenche pas les feux.
Oui, je l'ai entendu. Ouais, si.
Ah bon?
Si, nous, ça nous est déjà arrivé. Une fusée qui retombe dans un tas d'herbes sèches et ça part.
Tiré par une société pyrotechnique, par un professionnel?
Tiré par une société pyrotechnique, oui, bien sûr.
D'accord.
Et bon, bien sûr, il y avait le dispositif, on l'a éteint rapidement. Mais,
C'était sécurisé. Parce que c'est des feux d'artifice sauvages faits par des gens qui se sont achetés des fusées au centre commercial.
C'est ça le risque.
Ah non, on parle pas de ça. Ça c'est.
Eh ben voilà. Donc quand c'est organisé, que c'est cadré, et qu'il y a des normes. On vit dans un pays hyper normé où il y a des règles pour tout, des métrages pour tout. Donc les feux d'artifice, c'est censé être cadré. Quand quelque chose est cadré, pourquoi le supprimer? Qu'on lutte contre les feux d'artifice sauvages, les gens qui font ça dans leur jardin, je veux bien.
Intraitable contre les pyromanes.
Enfin voilà, ça a été pris à l'unanimité, la décision, Jean-Philippe.
Dans les régions où c'est cramé, attendez. Les gens, ils n'ont pas autre chose à faire qu'un feu d'artifice.
Décision, Jean-Philippe, en fait. Décision prise à l'unanimité, oui.
Tout à fait.
Et acceptée par la population, par vos administrés.
Et dans l'Hérault, il y a eu des incendies.
La population, elle va peut-être, comme vous l'avez dit, c'est sûr que c'est toujours décevant parce que les enfants ne voient pas les feux d'artifice. Mais si vous n'avez pas la moitié de la ville qui crame à côté, c'est bien aussi.
Oui, mais comme il n'y aura pas le feu d'artifice, il va falloir vous contrôliez certains qui seront peut-être un peu frustrés, qui disent ben moi je vais faire mon feu d'artifice. Oui. Et là, bim.
Responsabilité individuelle des gens.
Mon cher Jean-Philippe.
Vous en parlez assez.
Oui, vaste débat. Merci Jean-Philippe.
Sans parler de l'alcoolisation sous canicule.
Annuler les feux d'artifice du 14 juillet, qu'est-ce que vous en dites? Oui, non, oui, non, oui, non, oui, ah, oui, 62%. Esprit de responsabilité.
Les Français. Ah, les Français,
ma chère Estelle Denis, je vous en prie, rejoignez-nous donc, parce que le débat va continuer avec vous. Bonjour.
Mais tout à fait, Alain, bonjour les GG. On va évidemment parler de Marine Le Pen, candidate à la présidentielle, malgré sa condamnation pour détournement de fonds publics. Est-ce que ça vous a choqué, vous, qu'elle décide d'être candidate à la présidentielle et qu'elle ne cède pas sa place à Jordan Bardella? Mais écoutez, vous nous dites tout. Au 32-16, on parlera de la France qui suffoque de nouveau. Épisode caniculaire durable. Voilà. Et donc, Yann Brossat souhaiterait réquisitionner les lieux climatisés dans la capitale et ailleurs. Est-ce que ce serait une bonne ou une mauvaise idée d'aller dormir dans les locaux vides du BHV en temps de canicule? Bah, écoutez, on en débattra avec vous midi et demi. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu ça, la Corée du Sud se bat en soi. Il y a une énorme polémique dans ce pays parce que le président de la Corée du Sud veut rembourser les traitements anti-calvitie. Il dit que c'est un véritable fléau de société.
Je vais là-bas.
Est-ce qu'il faudrait rembourser les traitements contre la calvitie en France? On sait que c'est très invalidant.
Lui-même est chauve ou pas?
Ça, je ne sais pas. Mais
il faudrait vérifier. Il y a des effets
secondaires. Regardez, Olivier, vous avez un petit peu moins de cheveux qu'il y a 20 ans.
Oui, bon, ça, c'est vrai.
Est-ce qu'il faudrait rembourser votre minoxidil ou votre greffe?
Ou mon voyage en Turquie.
Oui, mais
ça, parce qu'en général, c'est
le minoxidil, c'est un traitement sur la tête.
Le minoxidil,
ça marche pas très bien.
C'est un traitement qui évite aux cheveux de tomber, mais ça ne te rend pas une chevelure crue.
Moi, je vais faire un aveu, j'avais essayé il y a longtemps, ça ne marche pas.
Il y a des effets secondaires.
En tout cas,
allez, 32-16 pour discuter.
Du Sud,
Estelle
midi 15h.
Estelle midi.